RMC, Bourdin Direct.
8h12 Allez. Sur RMC, oui. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Marie Dosé, avocate de l'ONG Sherpa et de 11 ex-salariés syriens de Lafarge.
Oui, Marie Dosé, bonjour.
Bonjour.
Reprenons les faits dès le début. Lafarge, le CIM, maintenant, entreprise franco-suisse, hein, on est bien d'accord, est accusée d'avoir financé Daesh. Comment, Marie, comment?
Mais tout simplement sur la période de 2011-2014, sa filiale syrienne était donc installée en Syrie et nous arrivons à un chiffre de 13 millions d'euros. 13 millions d'euros ont été donnés par Lafarge à des organisations de terroristes directement ou indirectement intermédiaires.
Pourquoi?
Pour faire fonctionner l'usine,
pour que l'usine puisse continuer à fonctionner.
Oui,
voilà.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on a payé le terrorisme, Lafarge a payé le terrorisme pour que l'usine puisse continuer à fonctionner.
Bien
on
sûr,
est bien d'accord.
Bien sûr, 2012, 2013, 2014, on ne pouvait pas faire fonctionner cette usine sans régler des organisations terroristes, bon. Dont Daesh.
De l'argent qui a pu tuer des Français, mais qui a tué des civils, qui a financé le terrorisme.
Mais c'est ça que Lafarge n'a pas l'air de comprendre. C'est-à-dire que l'argent, c'est fongible. L'argent, ça se transforme. Quand on donne 13 millions d'euros à des organisations terroristes jusqu'en 2014, qui peut nous assurer que cet argent n'a pas servi à financer l'attentat, par exemple, du 13 novembre 2015? Vous savez, quand on discute avec un magistrat instructeur antiterroriste, il nous dit que un attentat comme celui du 13 novembre 2015, au bas mot, ça a coûté 100 000 euros.
Oui.
Entre la location des voitures, la location des appartements, etc. Donc, finalement, on arrive là, nous, à une somme de 13 millions d'euros donné par Lafarge avant cet attentat.
Oui. Alors, des cadres de Lafarge ont été mis en examen. Combien?
Pour l'instant, 6.
6 cadres de Lafarge. Est-il vrai que Lafarge aurait essayé d'acheter le silence des cadres mis en examen?
Tout à fait. En tout cas, pour certains d'entre eux, ils ont indiqué au magistrat instructeur que Lafarge avait tenté d'acheter leur silence. Autre chose, beaucoup plus important en tout cas pour Sherpa que je représente et les 11 salariés syriens, lorsque les magistrats instructeurs sur commission rogatoire ont diligenté des perquisitions, on a constaté que les procès-verbaux, les documents de travail avaient disparu, ces documents qui concernent la période incriminée. Donc à partir
entrave
de là...
Entrave à la justice.
Pour Sherpa, c'est une entrave à la justice. Et ça devrait l'être aussi pour le parquet. Nous sommes sur une destruction de preuves. Soit Lafarge fait croire, comme il tente de le faire depuis le début, qu'il va participer à la manifestation de la vérité, qu'il regrette tout ce qui s'est passé et qu'il est au service de la justice, soit il ment.
Oui.
Et dans ce cas-là, les magistrats n'ont toujours pas toute la comptabilité alors qu'ils l'avaient promis. Il nous manque 9000 pièces sur le rapport d'audit. Et puis surtout, lorsqu'on fait des perquisitions, étrangement, de 2011 à 2014, aucun document de travail.
Vous appelez donc, vous Sherpa, vous avocate de Sherpa de l'ONG, vous appelez le parquet de Paris à se pencher sur la destruction de preuves.
Mais oui, parce que si vous voulez... Deux poids, deux mesures, ça commence à suffire. Moi, je crois une chose, c'est que on ne peut pas aujourd'hui reprocher aux plus puissants de ne pas se sentir au-dessus des lois si on les traite différemment du justiciable lambda. Il y a deux poids, deux mesures dans ce type de dossier. Vous savez, dans un petit trafic de stupes, là, et je fais du pénal de terrain, donc je le sais, le petit trafiquant de stupéfiants, il appelle ses copains pour prévenir qu'il va y avoir une perquisition, tous partent en détention provisoire.
Normal, d'ailleurs.
Voilà, là... On nous explique qu'il n'y a pas de risque de dépérissement des preuves, qu'il n'y a pas de risque de concertation, et donc tout le monde est placé sous contrôle judiciaire. Tant mieux, je suis avocat, je suis pas une pro-détention provisoire, mais dans ce cas-là, que cette jurisprudence s'applique à tout le monde. Et c'est pareil pour le parquet. Le parquet, quand il ouvre une information judiciaire, il commence toujours par des faits criminels. Là, il commence par des faits correctionnels. Donc on est véritablement face à une inégalité des justiciables devant la loi.
Eh bien, Marie Dosé, nous suivrons ce dossier. N'hésitez pas à nous informer. Avocate de Sherpa, merci. Merci à vous.
Je vous en prie.
8h17, vous êtes sur RMC.